talmudique. Olivier de Marliave, bonjour.
Bonjour.
Olivier de Marliave, je suis heureux de poursuivre notre conversation autour de ces terres promises avant Israël. C'est le titre de votre livre paru aux éditions Imago qui explore tous les projets qui furent proposés pour trouver une terre d'accueil pour les Juifs à travers le monde. Même si de multiples expériences de création de ces lieux d'accueil pour les Juifs ont été faites depuis le XVIIe siècle, c'est au tournant du XXe siècle que se cristallise toute cette histoire. Il faut rappeler, et c'est essentiel pour la compréhension de l'histoire, que nous sommes en des temps où, un peu avant et après la Première Guerre mondiale, la géographie du monde et le tracé des frontières vont être totalement bouleversés. Le démantèlement de l'Empire ottoman, par exemple, et sa reconfiguration en de nouveaux États a joué un rôle majeur dont les conséquences se font sentir, on l'oublie souvent, jusqu'à aujourd'hui. Dans l'émission de la semaine dernière, nous avons fait connaissance avec des hommes qui ont mis toute leur énergie à ces différents projets. Mordechai Emmanuel Noah, le baron Maurice de Hirsch, le baron James Edmond de Rothschild, Israël Zangwill et Théodore Herzl pour les plus emblématiques. Emblématiques car ils représentent trois courants différents du sionisme fondés sur trois idéologies différentes. Il y a ceux qui pensaient que on pouvait s'installer n'importe où pourvu que la terre soit accueillante. C'est ce qu'on appelle le courant des territorialistes. Et puis il y a le courant de ceux qui pensaient que seulement la terre d'Israël, qui était à l'époque la Palestine sous mandat ottoman, puis sous mandat britannique, pouvait être le lieu de cet accueil. Et il y avait ceux qui étaient indifférents. L'essentiel, c'est qu'il y ait une terre qui puisse accueillir les Juifs. Et nous avons évoqué la semaine dernière la France comme possibilité avec cette anecdote du bassin d'Arcachon, l'Argentine, l'Amérique et la Palestine ottomane, l'Ouganda. J'aimerais, Olivier de Marliave, que nous découvrions avec vous d'autres pans de ces aventures. L'accès d'Hitler au pouvoir et sa volonté d'une Europe Judenrein provoque une crise migratoire d'une exceptionnelle ampleur, crise à laquelle les nations vont se confronter et tenter de trouver une résolution. Je pense en particulier à la conférence d'Évian. Nous sommes en 1938, pas moins de 666 suggestions ont été recensées. Quels sont les résultats concrets de cette conférence d'Évian, Olivier de Marliave?
Alors effectivement, c'est une conférence initiée par Theodore Roosevelt, qui était un peu dépassé par l'afflux considérable de migrants, de réfugiés juifs sur le territoire américain. Donc cette conférence avait des arrière-pensées, bien évidemment. Alors en 1938, c'était un fiasco à Évian, juillet 38. La seule chose, il y a eu deux propositions concrètes, à la grande honte, je pense, de beaucoup de chefs d'État. Les Français ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens d'accueillir plus de réfugiés. Les Américains, donc, se prévalaient de l'afflux considérable de migrants déjà, sans parler des pays d'Europe centrale qui, eux, étaient justement dans l'impossibilité d'intégrer des populations juives venant essentiellement d'autres pays comme la Russie. Et donc il y a eu deux plans qui ont émergé, le plan Mindanao aux Philippines, aussi étonnant que cela puisse paraître, et puis le plan de la République dominicaine du dictateur Trujillo. Alors le plan Mindanao a très vite échoué. Mais en revanche, le plan concernant un établissement avec un foyer régional, ou au moins peut-être pas national, mais régional de juifs en République dominicaine, a fonctionné. Il y a un groupe d'un peu moins de 1000 personnes qui a abouti dans un endroit où très vite ils ont créé un village, qui existe toujours d'ailleurs, El Bateille. Et là, cette communauté s'est lancée dans l'élevage. C'est le dictateur Trujillo qui a vendu à cher denier des terres qui lui appartenaient, comme par hasard. Et cette population, qui n'a jamais dépassé 1500 à 2000 personnes, donc c'était un tout petit foyer, n'est-ce pas, très loin des ambitions de cette conférence d'Évian. Mais cette population a grandi et s'est lancée avec succès dans la production agricole. Et aujourd'hui encore, c'est assez touchant parce qu'il existe alors un petit musée qui rappelle cette aventure, et il existe toujours deux familles qui continuent à faire notamment des produits laitiers. Et
ça n'a pas résolu le problème, puisque 2000 personnes, ça fait peu sur l'ensemble. Le pogrom contre les Juifs organisé par le Troisième Reich, qui se déroula dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 et dans la journée qui suivit, et que nous connaissons sous le nom de la Nuit de Cristal, provoqua une immense panique, ce qui va conduire Roosevelt et son administration à chercher une porte de sortie. Malgré tout, il faudrait dire une porte d'entrée à cette fuite massive des Juifs d'Allemagne. Si Roosevelt n'a rien proposé après Évian, l'Alaska va être une des destinations envisagées. Si le contexte n'était pas si terrible, l'Alaska comme terre promise pourrait faire sourire Olivier de Marliave.
Alors l'Alaska, effectivement, c'est ce qu'on a appelé le plan Slattery, du nom du sénateur américain, qui a proposé l'installation de cette terre quasiment vierge, peu attrayante, peu accueillante, mais où là aussi il existait quelques familles, des pionniers qui s'étaient installés et qui réussissaient plus ou moins bien dans l'agriculture. Le projet a très vite capoté, en grande partie du fait de l'opposition des populations locales, et notamment d'un pasteur, protestant donc, qui a dénoncé avec des relents d'antisémitisme, bien évidemment, qui a dénoncé l'afflux massif de ces populations. Je pense qu'il l'a jamais dit ouvertement, enfin je n'ai pas trouvé de traces, mais pour lui, comme l'idéologie chrétienne dominante, le peuple juif devait rester errant éternellement. Et donc ce plan Alaska a tourné court. Mais vous faisiez allusion à cette panique des années 38-39. Il y a eu sur les océans une série pitoyable de drames qui se sont déroulés. Des bateaux, alors tout le monde connaît l'épisode d'Exodus, c'est auparavant, en 1939, il y a un paquebot qui est parti d'Allemagne avec un nombre considérable à bord de passagers, destination Cuba. Des juifs qui avaient acheté des visas dans le port de Hambourg, et arrivés au large de Cuba, on leur a fait savoir que leur visa n'était absolument pas valable, qu'ils avaient été floués, et donc les autorités cubaines leur ont opposé une fin de non-accueil, de non-recevoir. Ils ont dû repartir, et c'était le début d'une errance pitoyable. Ils se sont approchés de la côte des États-Unis. Roosevelt a envoyé la flotte de guerre pour dire « nous vous coulons si vous approchez ». Le bateau est parti dans l'Atlantique Nord. Le capitaine du navire, à un moment, a pensé échouer son bateau en Angleterre, en désespoir de cause, pour forcer les Anglais à accueillir ces populations. Et au dernier moment, un accord a été trouvé. Ces populations sont revenues en Europe et ont été dispatchées entre Anvers, la France et la Belgique. Plusieurs autres bateaux, comme ça, sont partis en errance. Le Saint-Louis, notamment, j'en cite plusieurs, le Sandrou, l'Astir, la Simi. Ce sont des épisodes, des anecdotes très peu connues, mais là aussi, ce sont des bateaux qui sont partis vers dans l'Atlantique Sud, vers l'Amérique latine, et qui n'ont jamais abouti, soit au Brésil, soit au Paraguay, mais qui ont dû, pour la plupart, repartir en Europe.
Quand on lit ces pages que vous nous racontez, ou vous nous racontez le périple de ces bateaux en perdition, sur une mer qu'aucun port ne veut accueillir, c'est à pleurer, si on peut dire. Et cela résonne avec une grande modernité, même s'il ne faut pas confondre les temps de l'histoire et les problématiques complètement différentes. Quelqu'un qui prendrait l'émission en route et qui entendrait vos propos entendrait des mots qui résonnent aujourd'hui fortement.
Oui, alors, si vous voulez, il faut quand même ne pas faire d'erreur. Les États-Unis, auparavant, avant 1917, avaient mis au point le plan Galveston, qui était un plan d'immigration choisie, très très sélective, d'immigration sur les États-Unis. Ce sont des grands financiers juifs américains qui se sont entendus pour créer trois portes de sortie, au départ de Brême notamment, sur le port texan de Galveston, avec des bureaux où on sélectionnait d'une façon très sévère les juifs, victimes de pogroms, mais à partir de leur métier, de leur âge, etc. Et ce plan a relativement bien fonctionné. Il s'agissait de décongestionner l'afflux massif d'immigrés juifs sur la côte nord-américaine. Les immigrés qui passaient par Ellis Island, bien évidemment, s'entassaient à Philadelphie, à Chicago, à Detroit, à New York. Et donc les autorités américaines avaient l'intention de mieux répartir ces populations. Le plan Galveston, antérieur donc à la conférence d'Évian, je le reprécise, ce plan Galveston a relativement bien marché, même si le nombre de personnes a été assez réduit. Ce sont des gens qui ont été envoyés à l'intérieur des États-Unis, où ils ont créé des fermes qui ont relativement bien fonctionné.
Une sorte de Far West.
Une sorte de Far West, tout à fait, oui, bien sûr. C'était le souhait des Américains de mettre en valeur l'intérieur de leur terre.
Alors, une place dans cette histoire des terres promises, une place à part doit être faite au plan Madagascar, qui fut à la fois une destination de sauvetage et une destination d'enfermement, selon les points de vue. Olivier de Marliave, déjà sur la scène politique dès 1885, le plan Madagascar est repris par les nazis en 1940.
Alors ce plan Madagascar, son origine, une fois de plus, c'est un livre. Le livre d'un certain Paul de Lagarde, qui était un huguenot dont la famille avait émigré vers l'Europe centrale. Il était allemand et son nom allemand était Bottischer. Et en 1878, il a écrit un ouvrage, Écrits allemands. Est-ce qu'on peut dire qu'il était antisémite, cet ouvrage? Je ne suis pas sûr, il était surtout anti-judaïque. Il partit du principe que les Européens ne pouvaient pas avoir d'autre religion que le christianisme. Et donc, partant de là, les Juifs n'avaient pas leur place en Europe. Et dans plusieurs autres livres, il explique que l'idéal serait d'exiler les Juifs sur une grande île où ils ne pourraient plus nuire au reste du monde. Je reprends ces termes, n'est-ce pas? Et il nommait Madagascar. Cette affaire a eu beaucoup de retentissement, notamment en Pologne. La Pologne, on le sait, avait une population juive extrêmement importante, vivait des troubles d'antisémitisme extrêmement graves, et l'État polonais s'est dit pourquoi pas le plan Madagascar. Et ce qui est assez curieux, c'est que ce plan était discuté en France, à l'époque du Front populaire, par Marius Moutet, le ministre des Affaires étrangères. C'est un plan qui a eu l'aval de Léon Blum. Certainement. Et donc, il était question d'exiler, si je puis dire, ou du moins de transporter des populations à Madagascar. Une commission, une expédition s'est montée, l'expédition Lepeki, qui a exploré les hauts plateaux de Madagascar et qui a conclu que, chez les Mernes, c'est la population des hauts plateaux, eh bien, on pouvait mettre en valeur des terres, effectivement, et pourquoi pas importer, si je puis dire, des Juifs. Pour aller vite, cette affaire a échoué parce que la marine française a opposé une fin de non-recevoir. Pas question pour nous de lier la marine nationale au transport de populations juives sur Madagascar. Cette affaire est passée, il y a eu la guerre bien sûr, et en 1940, les Allemands, notamment Goebbels, avaient eu vent de ce plan Madagascar et ils comptaient sur la faillite et la défaite anglaise pour récupérer la marine de commerce anglaise et transporter les Juifs à Madagascar. Et donc les Allemands ont travaillé sur un plan, il y a une commission qui est repartie là-bas, à Madagascar, et il était question de créer non pas du tout un foyer national, c'était pas du tout dans l'idée des Allemands, mais une communauté qui serait surveillée de près et qui aurait certainement vécu dans la misère. Tout cela ne s'est pas fait parce que l'Angleterre n'a pas été soumise et parce que Hitler a eu d'autres projets.
Meine Kinder. Als der Herbst dieser Gräuer und reist ob dem Sommer mit Regen und Wind, fahre Wege mit Erlieben, dem alten kranken Treuer, der erzähl immer sieber die Wolken zerräuf, ist ständig, räuf ständig der Himmel. Als der Herbst dieser Gräuer und reist ob dem Sommer mit Regen und Wind, fahre Wege mit Erlieben, dem alten kranken Treuer, der erzähl immer sieber die Wolken zerräuf, ist ständig, räuf ständig der Himmel.
Cette musique, Olivier de Marliave, est la musique du film de Marek Alter qui s'appelle Birobidjan, Birobidjan. J'aurais pu aussi sur cette musique lire quelques vers de Blaise Sandrart sur le Transsibérien qui nous conduit jusqu'au bout de cette ligne de chemin de fer jusqu'à l'extrême-orient de la Russie. comme nous y conduit cette musique yiddish, nous voilà arrivés d'une certaine manière, bienvenue au Birobidjan. Quel voyage, Olivier de Marliave ?
Ah, c'est un voyage, oui, et je veux dire que c'est une des dernières réussites du territorialisme, parce que le Birobidjan existe toujours. Il y a, dit-on, davantage de Chinois que de Juifs. Très peu de personnes, bien sûr. L'essentiel de la population installée par Staline à partir de 1928 a migré vers Israël. Mais c'était une aventure assez extraordinaire parce qu'il y a eu là le Raj, n'est-ce pas, la région autonome juive, telle que l'a souhaité Staline à ses débuts, a été une entité administrative autonome avec le yiddish comme pratiquement langue nationale, avec une agriculture kolkhozienne, certes, mais une agriculture qui a bien fonctionné, des industries, etc. Mais tout ça s'est délité parce que Staline, le Staline de la dictature, le Staline des camps a repris le dessus assez vite. Le Staline antisémite, je crois qu'on peut le dire aussi, a repris assez vite le dessus. Et cette expérience a échoué. Il faut dire qu'elle a été aidée, cette expérience, à ses débuts par l'agro-joint. On revient au grand capitaliste juif américain qui d'abord avait financé l'installation de fermes en Crimée. Et qui ensuite, à partir du moment où Staline a créé donc le Birobidjan, cette aide avec l'agro-joint s'est orientée vers l'extrême-orient soviétique.
Lang et Guogan dans la célèbre course de chevaux, parfois quelques notes suffisent, nul besoin de dire que nous sommes en Chine. La question est seulement de savoir pourquoi Chine terre promise. Je pense, Olivier de Marliave, que vous pouvez nous éclairer sur cette énigme, mais je tiens à préciser que si la musique est chinoise, le plan de cette terre promise est japonaise, Olivier de Marliave.
Oui, c'est le fameux plan Fugu, une des expériences les plus incroyables, vraiment. Est-ce qu'elle rentre ? Oui, certainement, dans le cadre du territorialisme, bien que ces acteurs n'aient rien eu à voir avec les territorialistes eux-mêmes. Mais le plan Fugu, alors pourquoi Fugu ? Le Fugu est ce poisson de mer de Chine qu'il faut dépecer avec une extrême attention, car il est succulent, mais il contient du poison. Il faut dire aussi que les Japonais étaient passionnés par le peuple juif, et ils prenaient au pied de la lettre les protocoles des sages de Sion. Cette espèce de faux tsariste qui prétend que les Juifs avaient comme souci la maîtrise du monde. Et en 1934, lorsque les Juifs ont fui massivement l'Allemagne et l'Europe centrale, ils se sont posé la question de savoir s'il n'y avait pas là une opportunité pour développer la Mandchourie. Ils avaient envahi la Mandchourie, le nord de la Chine, donc le Mandchoukou, au début des années 30. Et ils ont fait venir assez vite des Juifs qui sont installés d'abord à Harbin. Cette installation n'a pas réussi parce qu'il y a eu un fait divers assez catastrophique qui a fait que les Juifs sont partis, à l'initiative des Japonais également, vers Shanghai. À Shanghai, il y a eu un conseil juif d'Extrême-Orient qui s'est créé avec un représentant de la communauté des juifs, Abraham Kaufman. Et là, il était vraiment question de créer une entité autonome juive. Il y a eu un afflux considérable de personnes. C'est assez curieux parce que les officiers japonais étaient donc passionnés par les juifs. Ils ont créé une commission aux États-Unis. Ils sont allés à Hollywood et voir de quelle façon ils pouvaient avoir un appui du cinéma américain dans lequel les responsables juifs étaient extrêmement présents, pour avoir une espèce d'appui mondial de propagande et apparaître comme, non pas les sauveurs, mais pour apparaître comme des bienfaiteurs des juifs en les installant autour de Shanghai. Tout cela a mal tourné parce que les Japonais alliés des Allemands ont été dans l'obligation de créer un ghetto. Le ghetto de Hongkyu, ce quartier qui a été dédié aux juifs, donc. Ça a été assez pitoyable parce qu'un officier nazi a pris tout cela en charge à Shanghai et il avait comme ordre d'expulser ces juifs avec des projets insensés, les faire travailler jusqu'à la mort dans des mines de sel ou les faire embarquer sur des carcasses de vieux cargos et les laisser partir à la dérive en mer de Chine. Tout cela ne s'est pas fait parce que la guerre a eu d'autres impératifs, mais il y a eu là une communauté très importante de juifs qui ont relativement bien vécu le temps du ghetto. Et les Japonais et les Chinois ont toujours eu une espèce de reconnaissance parce que il y a eu des cliniques de haut niveau qui sont créées, il y a eu des journaux, il y a eu enfin une vraie vie économique, culturelle et sociale qui s'est créée à Hongkyu et à Shanghai.
Et il y a même une yeshiva qui s'y est installée. L'histoire raconte que un maître a fui avec tous ses élèves et sont partis en train pour passer à Shanghai. Est-ce que vous avez rencontré cette histoire dans votre recherche, Olivier de Marliat?
Alors, il y a beaucoup d'histoires qui se rapportent à cela, oui, bien évidemment. Il y a également la recherche d'une sorte, une porte de sortie vers l'Australie. On y revient. Et il y a eu une espèce de second plan, mais les Australiens, très vite, ont fait savoir qu'ils avaient des quotas ethniques, des quotas raciaux même, pour accueillir les réfugiés, qu'il n'était pas question de servir de porte de sortie à la communauté juive de Shanghai.
D'autres musiques pourraient suivre Olivier de Marliat. On a entendu le chant yiddish pour le Birobidjan, la musique chinoise pour cette aventure de Shanghai et ce plan Fugu. On pourrait faire entendre ce passage de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak qui fait écho à la Moldo de son compatriote Smetana. Et commencerait alors une autre histoire, une histoire Altnoy, pour paraphraser Herzl qui lui-même paraphrasa le nom de l'ancienne synagogue de Prague, dit Altneue Schule, commencerait une nouvelle histoire déjà très ancienne. Que se passe-t-il dans cette histoire des terres promises après la guerre, après la Shoah, Olivier de Marliat?
Alors après la Shoah, il y a eu plusieurs plans, curieusement, donc nous nous situons toujours entre les années 45 et 48, avant la création d'Israël. Et ce qu'il faut dire, c'est que Zangwill, avant sa mort, avait lancé la possibilité d'une installation des Juifs en Cyrénaïque. C'est une des provinces de la Libye. Ce projet n'avait pas abouti pour différentes régions. Et Churchill, curieusement, en 1943, a été approché par Chaim Weizmann, le président de l'Organisation sioniste mondiale, pour relancer le projet de Cyrénaïque. Alors, ce plan a été étudié par la chancellerie anglaise, d'autres chancelleries allemandes européennes, et une autre expédition s'est lancée, effectivement, en Cyrénaïque, pour voir la faisabilité d'une telle colonisation. Il y a eu là aussi un certain nombre d'hommes, vous savez, je l'ai dit au passage, on rencontre des hommes d'exception dans toutes ces explorations, avec notamment un certain Nahum Slutsch, qui est mort en 1966, et qui a dirigé l'expédition en Cyrénaïque. C'était un archéologue, un spécialiste des tribus perdues d'Israël. C'est curieux, parce que lui aussi mettait en avant une de ses théories chamitiques, et il pensait qu'il y avait des tribus berbères qui représentait une des tribus perdues d'Israël en Cyrénaïque. Donc une raison de plus d'envisager éventuellement une installation des communautés juives là-bas. Slutsch, je termine avec lui, a été qualifié de premier archéologue d'Israël. Voilà. Donc cette commission comprenait un spécialiste de l'irrigation, un agronome, et ils ont très vite conclu à l'impossibilité de développer la Cyrénaïque comme on aurait pu le faire. C'est assez paradoxal parce que Israël, je veux dire, a fertilisé le désert du Negev. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une mauvaise volonté des chancelleries? Je pense que là aussi, il y aurait une autre face de ce territorialisme à développer, à savoir la mauvaise volonté permanente des chancelleries pour trouver un territoire aux communautés juives en perdition.
Mais ce qui poserait aussi la question, pourquoi, in fine, la solution israélienne a été acceptée par les chancelleries?
Oui, bien sûr, mais là on est dans l'histoire contemporaine pratiquement.
Voilà, alors après cette aventure cyrénaïque de Libye qui n'aboutit pas, il y a encore d'autres plans qui sont mis en œuvre.
Il y a un plan alors qui nous renvoie au tout début de cette aventure, le plan Suriname, dont on n'a pas parlé en détail.
Je l'ai réservé pour la fin.
Au XVIIe siècle, d'accord. Oui. Mais alors là aussi c'est un homme du livre peu recommandable, mais un certain Anton Adrian Musser, furieusement antisémite, qui a publié un livre, Le foyer national juif aux États-Unis de Guyane. Voilà, il avait eu connaissance de Jordan Savane.
Hein, alors rappelez-nous ça, parce que c'est un moment important, on est au XVIIe siècle.
Donc les Hollandais avaient créé des comptoirs commerciaux au nord de l'Amérique du Sud, et un certain David Nassi a fondé un village, le village de Jordan Savane, la savane des Juifs, hein, si on traduit littéralement. Ça se trouve sur le Saramaca, ce petit fleuve du Suriname, et là, il y a donc une communauté qui est arrivée, assez nombreuse, hein, on a atteint 10 à 12 000 personnes, qui pendant un siècle et demi a vécu dans la prospérité, dans une autonomie religieuse et administrative complète, parce que les Hollandais avaient signé une espèce de charte des libertés, qui était remise en question ensuite, en 1825. Mais cette colonie a très bien vécu, il faut savoir qu'elle était suffisamment opulente pour avoir financé la première synagogue de New York. Voilà.
Là, et on est en 1600...
On est en 1774, au moment où les Hollandais ont échangé donc avec les Anglais la Nouvelle-Amsterdam contre ce qui allait devenir New York. Et donc, on se situe après-guerre, en 1940, cet écrivain, ce journaliste hollandais relance l'idée d'un foyer juif en Guyane. On appelle ça le plan Saramaca, qui est le nom de ce fleuve. Et là également, il y a une expédition qui se met en route et qui voit que cette terre était fertile et pouvait être développée comme elle avait été trois siècles auparavant. La commission a rapporté un document d'une précision extrême, fixant même le nombre de cinémas qui était possible de mettre en place, le nombre de commerces, le nombre de métiers spécialisés. Tout cela a été discuté par les Hollandais, mais ça a avorté pour plusieurs raisons qui seraient trop longues à développer. Mais il y a eu un début de financement quand même de l'opération, mais là également il y a eu un rejet d'antisémitisme, il faut le dire, de la part des populations de Paramaribo. D'une part, il faut le reconnaître, de la part de la population juive qui était déjà à Paramaribo et qui, une fois de plus, craignait qu'un afflux massif de juifs ne crée de véritables sentiments antisémites. C'est un élément de refus que l'on trouvera pratiquement sur tous les projets.
Merci Olivier de Marliave pour ce voyage dans ces terres promises qui m'a donné à la fois un sentiment d'intranquillité et de sérénité. Car ce que j'ai ressenti en vous lisant et en vous écoutant ces deux semaines, c'est une forme de joie liée au fait de se sentir plus riche d'un savoir précieux que l'on peut convoquer et approfondir pour penser notre époque. Vous nous avez offert avec ce livre dont je rappelle le titre, « Les terres promises avant Israël, du Suriname à l'Alaska, du Kenya à la Mandchourie », paru aux éditions Imago, la démonstration de ce que l'on risque parfois d'oublier, combien la connaissance de l'histoire est nécessaire pour penser le monde et surtout le regarder avec des perspectives autres, pour le remettre en perspective et percevoir, sur fond d'horizon renouvelé, la très grande complexité de chaque problème, seule façon d'entrevoir une petite lueur d'espoir. Merci encore.
Merci à vous, Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wakenin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Bastien Varigaud. À la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de l'émission que vous pouvez réécouter, podcaster et partager entre amis. Kol Touv, Leitraot, au revoir. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.